Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Chaim Corcia. Tu es membre de l'Académie des sciences morales et politiques, par ailleurs grand rabbin de France. Dans ce monde un peu difficile à comprendre, dans lequel on entend tout et son contraire, où n'importe qui raconte n'importe quoi, on est un peu perdu par rapport à l'idée de vérité. Et j'aimerais qu'on puisse voir ton point de vue de religieux sur qu'est-ce que la vérité dans le monde d'aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais te faire écouter un tout petit extrait d'un film qui est paru il y a longtemps, qui s'appelle « Galilée et l'amour de Dieu ». Alors écoute et commente.
La théorie de Copernic peut être exposée à condition de ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir.
Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir. C'est ce que j'attendais de vous.
Il faut laisser les savants développer librement leur science et leur construction intellectuelle, mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité.
Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité ?
Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur.
Mais les Écritures sont parfois allégoriques.
Galilée, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est aux théologiens, aux cardinaux, et à moi-même de donner l'interprétation véritable des Écritures.
Alors, qu'en penses-tu ?
D'abord, Jean-Pierre Marielle est formidable. La tessiture de cette voix est extraordinaire. Sauf que Jean-Pierre Marielle, dans le film, joue le pape et pas un rabbin. S'il avait été un rabbin, ou si j'étais dans cette posture-là, j'aurais dit ce qui me semble être un absolu. Si la foi, la Torah, les textes, sont en opposition à la science, soit c'est que nous avons mal compris les textes, soit que la science n'est pas encore aboutie. Mais je refuse de dire que puisque la Bible dit ça, alors la science se trompe. Et je vais donner un exemple hilarant ou à pleurer, c'est comme on veut. Nous sommes dans le calendrier juif, là, aujourd'hui, en l'an 5785. D'après notre compute, c'est le moment de la création de l'homme, Adam. Attention, Adam, c'est-à-dire toi et moi. Mais il y a des gens pour qui nous sommes en l'an 5785, la création du monde, ce qui est une hérésie absolue.
Aujourd'hui.
C'est une hérésie absolue pour aujourd'hui parce que la science, toi,
nous a dit que c'était
tes
pas
amis,
le cas.
L'Académie des sciences, nous disent, enfin, le monde a à peu près 11 milliards et demi d'années.
Petit correctif, l'univers a 13,8 milliards d'années. La Terre, 4,5 milliards d'années. Homo habilis est arrivé il y a 2,5 millions d'années. Et Homo sapiens, notre espèce, date de 300 000 ans.
On a eu Homo sapiens, Homo erectus, on a eu, Néandertal avant nous. Ça colle parfaitement avec ma vision des textes. Pourquoi ? Parce que la science me dit quelque chose qui est mesuré, quantifié. Ce n'est pas quelque chose qui est doctrinaire, ce que me dit la science. La science établit des faits. Qui a dit que le texte ne marche pas ? Si je suis un imbécile, je dis 5785, donc ce qui est avant, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Comment tu fais ? On trouve des ossements, on trouve des squelettes d'humanoïdes, d'humains, on trouve des squelettes de dinosaures. Et en Israël, il y a quelques années, il y a un fabricant de yaourt, plus intelligent que les autres, qui a fait faire une étude et qui a remarqué que les enfants sont prescripteurs pour l'achat des yaourts. Tiens, maman, avec son petit dans le supermarché, au papa avec son petit dans le supermarché. Et le petit, il dit « Papa, papa, je veux le yaourt avec le dinosaure dessus. » Et le papa, il va, il prend ce yaourt avec le dinosaure dessus plutôt que celui sans le dinosaure. Mais il y a un rabbin plus futé qui a dit « Puisque le monde n'a été créé que depuis 5780, à l'époque c'était 5765 ans, et que les dinosaures sont censés avoir existé il y a 10 000 ans, donc ça n'a pas existé, et donc le yaourt qu'a le dinosaure sur lui, il n'est pas cachère. » Et il a décrété que le yaourt n'est plus cachère.
Bon, c'est une histoire vraie.
Oui, vraiment vraie, malheureusement vraie. On peut en rire comme toi, on peut en pleurer comme moi. Vraiment des cons. Mais c'est ça le principe. C'est pas d'opposition, c'est juste que tu ne sais pas interpréter les textes. Exemple, celui que je viens de prendre. 5785, c'est depuis Adam. Maintenant, on dit dans la Bible, au début de la Genèse, chapitre 1, « Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. » Et nous, dans notre tête, si on est bloqué, bêtement, sur le sens littéral, on se dit « Il eut un matin, il eut un soir, ce fut donc le premier jour, 24 heures. » Comment tu peux avoir 24 heures, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième jour, alors que les étoiles et les corps célestes ne sont créés que le quatrième jour. Donc déjà, c'est impossible d'avoir un cycle de 24 heures avant le quatrième jour. Donc si tu es d'accord sur les quatre premiers jours, fais-moi crédit des deux suivants.
Donc
tu es
en train de dire qu'on interprète mal?
Mais oui, si on dit jour en termes de 24 heures, sans comprendre que ce peut être un instant, ou 30 millions d'années, ou 2 milliards d'années, l'évolution qui fait que l'eau du haut se sépare de l'eau du bas, ce qui est votre façon de raconter le monde.
Est-ce que le mot « jour » en hébreu est bien défini ?
Yom. Oui, c'est marqué « yom ». Mais ça peut être aussi un temps.
Bien sûr.
« Iné yom Hashem ba », voici le jour de l'Éternel vient. Est-ce que c'est le jour, le 22 avril, machin ? Non.
De même qu'en français, d'ailleurs.
Mais bien sûr.
Les jours heureux.
Mais voilà, c'est le jour de la revanche. Mais est-ce que c'est ce jour-là ? Non, c'est le temps de la revanche. Donc, on voit bien comment un enfermement dans le texte produit une conception d'une vérité qui refuse la confrontation.
Maintenant, ce que tu me dis, je le comprends bien, mais tous les rabbins qui t'ont précédé depuis des siècles avaient une vision, pour le coup, assez stricte.
Non.
Non.
Les rabbins intelligents,
non.
Par exemple mon maître, qui m'a tout appris, a toujours considéré que cette phrase que j'ai énoncée tout à l'heure, que s'il y a une opposition entre la science et la foi, c'est soit l'un, soit l'autre qui se trompe, mais il n'y a pas d'opposition. Si on croit, bah pourquoi c'est comme ça ? Si on croit que le texte de la Bible, c'est un texte divin, il ne peut pas y avoir de hiatus. Exemple, on nous dit dans le Lévitique, chapitre 12, voici les animaux permis, les animaux interdits. Pour les poissons, alors c'est ceux qui ont des éclats des nageoires, pour les mammifères, ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Et on nous dit, il n'y a que quatre animaux qui n'ont pas les deux. Soit il y en a qui ont rien, il y en a qui ont tout, mais les quatre qui ont ou l'un ou l'autre, c'est le lièvre, le chameau, le porc, et un quatrième sorti la tête. Si demain matin, on trouve un ornithorynx, je ne sais pas quoi, au fin fond de la Papouasie, bon, on dira, c'est embêtant, ça. Sauf que depuis qu'on cherche et qu'on trouve tout ce qu'on peut, on n'a pas trouvé un cinquième. Là, on est dans quelque chose qui, au fond, dit quelque chose des invariants du monde. Mais jamais, on dirait, c'est comme ça, parce que la Torah dit que c'est comme ça, la science nous dit l'inverse, et bien la science se trompe. Que la science évolue et qu'elle nous dise ce qui est établi maintenant peut être amendé, transformé, compris différemment, c'est possible. Mais il ne peut pas y avoir d'opposition entre les deux. C'est la construction, je dirais presque, c'est la confrontation des deux, c'est la rencontre des deux qui font qu'on établit ce qui est une vérité. ce que dit le pape à ce moment-là, c'est « Ok, continuez à travailler, mais ne dites pas que vous avez la vérité. Dites que vous avez, en gros, schématise, une vérité scientifique qui est bien sûr pondérée par la vérité théologique. Mais moi, je maintiens que Dieu dit dans les textes, c'est dans les textes, « Titen emet le Yaakov ». Tu as donné la vérité au monde. Et c'est pas pour rien que le rabbi Lev de Prague, quand il crée son golem, il lui écrit croix sur le front. Il lui écrit ce mot vérité, émet, vérité, trois lettres en hébreu. Et quand il veut l'arrêter, tuer son golem, il lui enlève le aleph, la première lettre de ce émet. Il reste donc met, qui veut dire mort. Au fond, c'est que la vérité, c'est un empilement de constatations, contradictions, d'évaluations qui crée un équilibre. Et si on enlève quelque chose, alors il reste que la mort. C'est-à-dire, redit dans les mots de Marielle Urbain, s'il n'y a pas cette confrontation entre divers scientifiques d'abord, ce que tu as la chance de vivre ici, quel est le principe de nos académies, quel que soit le domaine, la confrontation des savoirs. Une façon de dire, je ne peux pas détenir une vérité seule. Et quand on dit, quand le verset dit « Dieu donne la vérité à Jacob », c'est parce que Jacob est la résultante de Avraham et Isaac. Il a donné la générosité à Avraham, la rigueur à Isaac. La synthèse des deux, c'est la vérité. La générosité, c'est Jacques a eu toutes les idées. La rigueur, j'accepte que ce qui est démontré. La synthèse, c'est la vérité. Mais la vérité ne vient que de celui, Jacob, qui est lui-même père des 12 tribus, c'est-à-dire 12 façons de penser cette même vérité. Autrement dit, le principe même de la vérité, c'est la confrontation.
Donc tu affirmes que la vérité est unique.
Non, parce que je peux avoir ma vérité, tu as ta vérité. Souvent ça arrive comme ça dans les familles. Chacun, quand on se bagarre, aucun des deux n'a raison. Tous les deux peuvent être entendus. Et donc je n'ai pas bien fait ou mal fait. J'ai mon point de vue, et de mon point de vue, ma vérité était là. En revanche, dans le domaine scientifique, tu ne peux pas dire des aberrations en disant « moi je crois comme ça, la Terre est plate ». Moi je crois que la Terre est plate. Croire ou pas que la Terre est plate, c'est pas une croyance. Enfin, je veux dire, on peut pas croire ça. Tu vois, tu peux pas croire que quoi. Voilà, il y a des vérités différentes. Moi, je suis par exemple un Coca-Boy, et donc moi, je même pas en rêve, je regarde même pas un Pepsi. Ça, c'est une vérité absolue, mais c'est pas fondé sur des études scientifiques. C'est du ressenti.
Cette théorie qu'on appelle le conventionnalisme, fondée par Henri Poincaré, donne un exemple que je trouve tout à fait inspirant. Imaginons une planète qui soit entourée de manière permanente par des nuages, ce qui fait que personne n'aurait jamais vu les étoiles. Comment est-ce qu'on aurait compris que la Terre tourne sur elle-même, puisqu'on parle de Galilée ? Il n'y a pas d'étoiles, donc il n'y a pas d'astronome, il n'y a pas d'astronomie, il n'y a pas de moyen de voir que les étoiles tournent dans le ciel. Ben, les physiciens dans ce pays auraient inventé une force, ce qu'on appelle la force de Coriolis, tout aussi mystérieuse après tout que le magnétisme ou la gravitation, ou je ne sais quoi, qu'on apprend en cours de physique. Donc les profs de physique de ce monde auraient ajouté une force. Et dans ce monde, la Terre ne tournerait pas. Et les cours de physique seraient tout aussi cohérents. Poincaré ajoute... Dans une telle façon de présenter les choses, on ne peut pas dire que la Terre tourne. On peut dire qu'il est plus commode de penser que la Terre tourne, puisque avec une Terre qui tourne, la théorie est plus simple et plus élémentaire.
Je me demande s'il était soit jésuite, soit rabbin. C'est ou l'un ou l'autre, parce qu'un tel raisonnement, c'est quelque chose de fort. Moi, je reviens à ce que je connais vaguement, c'est-à-dire les textes. Il y a un passage dans Talmud que je trouve merveilleux, qui dit « Même si Dieu ne nous avait pas donné la Torah sur le mont Sinaï, nous aurions pu retrouver les 613 commandements juste avec l'observation du monde animal. C'est-à-dire que avec ton histoire de nuage, enfin son histoire de nuage, je la comprends, mais il y aurait eu des aberrations dans le système d'une Terre qui ne tourne pas, même avec cette fameuse force, qui n'aurait pu être résolue, ces aberrations, que par l'introduction d'une hypothèse que peut-être la Terre tourne. Et que si on fait tourner la Terre, alors tout est réglé. Voilà, tout est plus simple, tout est plus conforme, commode. Ce que dit Talmud, c'est l'obligation rituelle de se laver. Tu l'as dit du chat. Le fait de ne pas voler. Tu la prends de la fourmi. Jamais tu auras une fourmi qui vole sa charge à une autre fourmi. Jamais. Et ainsi de suite. Le Talmud va développer des dizaines d'exemples. C'est-à-dire que si on sait regarder cette création du monde qui, si on pense qu'elle est divine, a une cohérence interne, alors tu retrouves une part de tout dans chaque élément que tu peux considérer. Sauf qu'il faut savoir le considérer comme étant une part d'un tout et pas un absolu. Ta question, elle était très, très forte parce qu'il y a aussi là deux réponses. C'est, oui, je pense que chacun a sa vérité dans sa vision du monde parce que toi et moi, on ne voit pas le monde avec les mêmes yeux, la même histoire, le même passé, les mêmes références. Mais il y a des choses qui ne se discutent pas. Par exemple, cette nappe, elle est verte ou rouge? Même si tu viens du fin fond de la Dordogne ou de la Creuse, de la Corrèze, elle est plutôt verte. Est-ce que quelqu'un ne pourra pas te dire qu'il est... Alors, vert et rouge, non. Mais il tire un peu sur le brun ou sur le kaki? Il rentre de chez lui de l'équivalent juif du catéchisme qui s'appelle le Talmud Torah. Il s'assoit à la table à la maison et sa mère lui dit: alors mon petit, qu'est-ce que t'enseignes Rabban aujourd'hui? Rien maman, rien. Ah, vas-y dis-moi, qu'est-ce qui t'en prie? Ah maman, c'est bon, il fait le cours comme d'hab. Écoute, tu vas toute la matinée étudier la Torah, je veux savoir ce que t'as raconté. Bah il m'a raconté la sortie d'Égypte, bah raconte-moi. Bon bah les Hébreux sont sortis d'Égypte et il lui dit, et à ce moment-là les Américains... C'était devant la mer Rouge, les Américains ont envoyé deux porte-avions, le Ronald Reagan et le Nimitz. Et là, ils ont envoyé des Tomahawk, des missiles Tomahawk sur les forces égyptiennes. Ensuite, ils ont envoyé des F-22 Raptor bombarder les forces égyptiennes. Puis, ils ont envoyé des barges de débarquement. Bien sûr, il y avait quatre sous-marins nucléaires des Los Angeles, classe Los Angeles, qui ont permis de sécuriser tous les abords. Ensuite, ils ont envoyé des barges de débarquement. Les Hébreux, la mer, elle s'assoit. Oui, il continue. Alors, le rabbin nous a dit, les barges sont embarquées, les Hébreux sont montés dans les barges et puis ils les ont emmenés de l'autre côté, en terre sainte. Voilà, voilà quoi. La mère, elle est sidérée, elle lui dit, mais attends, le rabbin, il vous a vraiment dit ça? Il dit, écoute, maman, en fait, il nous a pas dit ça, mais si je te disais ce qu'il nous avait raconté, tu me croirais jamais. Donc en fait, où est la vérité?
Cette inquiétude sourde qui coule en nos veines,
qui nous saisit. Écoute, Chaim, merci beaucoup. Je vais te poser qu'une dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aimes la musique?
Je n'aime pas la musique, je suis la musique.
Est-ce qu'il y aurait une musique qui, selon toi, illustrerait ton propos d'aujourd'hui?
Il y a beaucoup de chansons qui disent des choses incroyables sur la vérité, des sentiments que parfois on n'arrive pas à exprimer. Je pense à une chanson de Goldman qui dit « Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire ». Ce sont des vérités, et ces vérités, si tu ne sais pas les exprimer, elles restent enfermées en toi, comme le Talmud le dit à propos des rêves. Les rêves, dit le Talmud, sont comme des lettres qu'on n'ouvre jamais si on ne les interprète pas. Et ces chansons, pour moi, elles sont essentielles. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire, ces visages oubliés qui restent inexistants.
Ces regards insistants que l'on n'a pas compris. Ces appels évidents, ces lueurs tardives. Ces morsures aux regrets qui se livrent à la nuit. Ces solitudes dignes au milieu des silences. Ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées. des ambitions passées, mais auxquelles on repense. Comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. C'est bien que l'on sécrète qui joigne les êtres.
Et puis vous avez reconnu de Rameau Les Sauvages, Les Indes Galantes, interprété par Les Arts Florissants.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.